Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciats et bienvenue dans votre émission Page à Page, où nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h, alors sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, vous m'excuserez un petit peu, mes amis auditeurs et auditrices, je suis un petit peu malade, mais voilà, je suis là et aujourd'hui nous allons recevoir par téléphone Gilles Verdet, par téléphone parce que ce monsieur est parisien et voilà, donc pour son dernier recueil qui s'appelle La sieste des hippocampes, et puis parisien est fier de l'être parce que dans ces quatre nouvelles qui composent ce recueil, eh bien il nous parle de Paris. On en parlera avec lui en direct ici sur Radio Occitanie dans quelques instants, mais comme à l'accoutumée, quelques petites infos. D'abord, pour vous dire que la pièce « Tonton Maurice est toujours mort » de Manu Kos, eh bien, vous la retrouverez à partir du 17 décembre au Théâtre de Poche, qui se situe 10 rue Del Alamein, à Toulouse. Moi, je l'avais vue personnellement au mois de juin. C'est une pièce très amusante, un peu ironique. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Ces mots, un homo bien dans ses baskets, Ariane, Madame Parfaite Épouse, et Camille, les cervelets de service, qui se retrouve à l'occasion de l'enterrement de Tonton Maurice. Alors au cours de la soirée, quelques secrets affleurent et la comédie s'installe avec son lot de chamaillerie et de règlement de compte. Les répliques fusent, le ton est à la fois ironique et tendre. La direction d'acteur au diapason avec l'écriture nerveuse et moderne de l'auteur, c'est-à-dire Manu Kos, que je recevrai d'ailleurs en janvier pour son dernier recueil de nouvelles. Et donc amène les comédiens à la justesse et la sobriété. Alors, comme je vous le disais, c'est à partir de mercredi prochain, 17 décembre, jusqu'au 20 décembre à 21h. Et le vendredi 26, samedi 27, lundi 29, mardi 30 et mercredi 31 décembre à 21h. Donc, si vous voulez passer avant de vous fêter de la nouvelle année, vous pouvez également y aller le mercredi 31 décembre. Donc, Théâtre de Poche, 10 rue Del Alamein, réservation obligatoire, bien entendu, au 05 61 48 25 52. Ensuite, je continue les infos avec le festival Lili Lalu dans le Tarn à Rabastens. C'est samedi 13 décembre et donc au programme 10 auteurs en dédicace, des éditeurs qui représentent des expos, des ateliers de création, dessin, BD, radio, une librairie, un salon de lecture, des contes. Donc une journée placée sous le signe de la lecture pour la jeunesse, donc n'hésitez pas à venir à Rabastens, ce n'est pas très loin de Toulouse, samedi 13 décembre. Je vous donne le site de cette association qui organise ce premier festival, Lili Lalu. Alors c'est www.festival-lililalu.blogspot.com. Et puis je continue avec samedi 13 décembre également, il s'en passe des choses le 13 décembre. De 10h30 à 12h30, à la médiathèque José Cabanis, au petit auditorium, 3e étage, lire la poésie proposée par Blandine Poney, donc c'est découvrir la poésie contemporaine à travers un choix de textes et sur des propositions simples, de travailler ensemble, dire à haute voix, comment adresser son texte, trouver sa voix, prendre la parole, etc. Donc c'est sur inscription, l'entrée est libre et gratuite, mais il faut s'inscrire pour un problème d'organisation de place. Donc c'est le numéro de téléphone suivant, 05 62 27 45 24. Voilà, samedi 13, lire la poésie. Ensuite, le 13 décembre, encore à 16h, cette fois-ci, à la librairie de la Renaissance, qui se situe 1 allée Marc Saint-Saëns à Toulouse, métro Bassocambeau. Eh bien, vous pouvez rencontrer Maxime Vivas, cet écrivain toulousain, que l'on a déjà reçu à Page, pour son dernier livre intitulé « La face cachée des reporters sans frontières ». Voilà, donc n'hésitez pas à aller à la rencontre de cet écrivain. Maxime Vivas est un homme très sympathique et un très bon écrivain que j'aime beaucoup. À la médiathèque José Cabanis également, une superbe exposition est exposée au rez-de-jardin, donc, et c'est des illustrations féeriques de Edmond Dulac, qui est né à Toulouse en 1882 et qui est mort à Londres en 1953. Alors, il y a une visite commentée de cette exposition le mardi 16 décembre. Le rendez-vous est sur place à 18h. Et si vous êtes intéressé par cette visite traduite en langue des signes, c'est sur réservation au numéro suivant 05 62 27 45 86. C'est vraiment, c'est une très très belle exposition où vous pouvez également amener vos enfants parce que c'est plein d'illustrations de, avec des princesses, etc. Enfin, c'est très sympa. Et alors, autour de cette expo, justement, samedi 13 décembre encore, de 15h à 17h, l'illustratrice Raphaëlle Michaud propose aux enfants de 8 à 12 ans un atelier d'illustration avec les titres des contes qui seront détournés, hein, ou les titres voilà, des contes connus seront détournés, et où ils pourront réaliser les pages de couverture de ces contes avec plusieurs techniques d'illustration comme le collage, les dessins, etc. Donc l'entrée est libre et gratuite, mais là aussi il faut réserver pour une question de place, d'organisation. Donc le numéro c'est le 05 62 27 40 31. Donc n'hésitez pas à emmener vos enfants donc samedi 13 décembre de 15h à 17h pour les 8-12 ans pour ce petit atelier d'illustration autour de contes. Et alors en parlant de contes justement, toujours autour de cette exposition de la médiathèque José Cabanis, une lecture de contes d'Andersen est prévue le mercredi 17 décembre à 11h et à 16h, donc pour les plus petits c'est à 11h et pour les plus grands c'est à 16h, au Piccolo Teatro, au Red Jardin de la médiathèque José Cabanis. Là l'entrée est libre et vous n'avez pas besoin de réserver, juste à amener vos enfants. Et ensuite, je vais terminer cette page d'info avec à la librairie de la Renaissance, le samedi 20 décembre, donc je vous le rappellerai également la semaine prochaine, à 16h30, eh bien Gilles Méchin, qui chante Aragon, et il est chanteur, auteur, compositeur, eh bien il va vous chanter Aragon, et après avoir mis en musique des poèmes de Pablo Neruda, après avoir chanté Léo Ferré, eh bien cette fois, Gilles Méchin a choisi de revisiter l'œuvre poétique d'Aragon, donc l'entrée est libre à la librairie de la Renaissance, Allée Marc Saint-Saëns. Je vous donne le numéro de téléphone pour plus de renseignements, 05 61 44 16 32. Donc si vous aimez Aragon, n'hésitez pas à aller samedi 20 décembre 16h30 à la librairie de la Renaissance.
Page à page, Claire Ambille.
Alors, comme je vous le disais, je vais recevoir dans quelques instants par téléphone Gilles Verdet pour son recueil de nouvelles intitulé « La sieste des hippocampes » édité aux éditions du Rocher et pour lequel il a reçu le prix Prométhée de la nouvelle. Il va nous en parler dans quelques instants. Donc, c'est un recueil de quatre nouvelles au style de, vraiment que j'ai beaucoup aimé son style, un style incisif. Les chutes de ces nouvelles sont très surprenantes, très abrupte. Et donc, comme je vous le disais, toutes ces nouvelles se passent à Paris. Donc, forcément, l'auteur, Gilles Verdet, a choisi une chanson qu'il affectionne particulièrement de Léo Ferré. Et justement, c'est Paname.
Paname, on t'a chanté sur tous les tons. Il y a plein de paroles dans tes chansons qui parlent de qui, de quoi donc. Paname, moi c'est tes yeux, moi c'est ta peau que je veux baiser comme il faut, comme savent baiser les gigolos. Paname, range tes marlous, range tes bistrots, range tes pépés, range tes ballots, range tes poulets, range tes autos. Paname, et viens m'aimer comme autrefois, la nuit surtout quand toi et moi, on marchait vers on ne savait quoi. Paname, y a des noms de rues que l'on oublie, c'est dans ces rues qu'après minuit, tu me faisais voir ton petit Paris. Paname, quand tu chialais dans tes klaxons, perdu là-bas parmi les hommes. Tu venais vers moi comme une vraie môme. Paname, ce soir j'ai envie de danser avec tes pavés, que le monde regarde avec ses pieds. Paname, t'es belle, tu sais, sous tes lampions, des fois quand tu pars en saison, dans les bras d'un accordéon. Paname, quand tu t'habilles avec du bleu, ça fait sortir les amoureux qui disent à Paris, tous les deux. Paname, quand tu t'habilles avec du gris, les couturiers n'ont qu'un souci, c'est de foutre en gris toutes les souris. Paname, quand tu t'ennuies, tu fais les quais, tu fais la Seine et les noyers, ça fait prendre l'air et ça distrait. Paname, c'est fou ce que tu peux faire poser, mais les gens savent pas qui tu es, ils vivent chez toi mais te voient jamais. Paname, le soleil a mis son pyjama, toi tu t'allumes et dans tes bas, y a Monsieur Haussmann qui te fait du plat. Paname, monte avec moi, combien veux-tu? Il y a 2000 ans que t'es dans la rue, des fois que je te refasse une vertu. Paname, si tu souriais, j'aurais ton charme, si tu pleurais, j'aurais tes larmes, si on te frappait, je prendrais les armes. Paname, tu n'es pas pour moi qu'un frisson, qu'une idée, qu'une fille à chanson, et c'est pour ça que je crie ton nom. Paname, 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 Paname.
Paname, très belle chanson de Léo Ferré. Bonjour Gilles Verdet.
Bonjour.
Alors, comme je le disais, vous êtes né à Paris, à Ménilmontant exactement, donc cette chanson, j'imagine, voilà, vous parle bien.
Cette chanson parle bien, oui, parce que je suis né vraiment dans le 20e. J'ai habité pas mal de temps pendant mon enfance en banlieue, mais ma ville, c'est vraiment ma ville, Paris, quoi. Un peu comme Toulouse, ça peut être pour vous ou pour vos auditeurs, et c'est surtout parce que les nouvelles dont on va parler là se passent toutes à Paris, donc ça me fait encore plus plaisir.
Je l'ai voilà. Dit avant, elles se passent toutes les quatre à Paris, donc là aussi vous avez un peu rendu hommage à votre ville.
Dans les quatre nouvelles, oui, et tout se passe à Paris dans des saisons différentes et dans des lieux un peu différents, et des lieux que j'aime bien, les bords de Seine, la gare de Lyon, du côté du Grand Palais, voilà.
Alors Gilles Verdet, pour vous présenter un petit peu, donc hormis que vous êtes parisien, vous êtes aussi un promeneur autodidacte avec de nombreux métiers à la clé, des métiers fort variés. Alors on trouve disquaire, marchand de bière et de whisky, photographe, dialoguiste pour la télévision, c'est très hétéroclite.
Ben oui, c'est un parcours un peu comme ça, j'ai été père de famille très jeune, donc je suis rentré dans la vie active à 20 ans et puis... J'ai fait tout un tas de métiers, et c'est peut-être ça qui a enrichi ma vie et mon imaginaire. C'est peut-être pour ça que maintenant, depuis quelques années, je me suis mis à écrire et que c'est devenu ma passion et mon plaisir principal. Oui.
Vous avez toujours beaucoup lu, hein.
Ah ben ça, je crois qu'on peut pas écrire de livres sans avoir beaucoup lu. On peut pas être musicien sans avoir écouté beaucoup de musique, quoi. C'est pareil.
Tout à fait. Donc la lecture a jalonné votre vie, votre adolescence. Et donc cette arrivée à l'écriture, ça s'est passé comment? Donc c'est assez récent finalement.
plutôt récent, oui. J'avais travaillé pour une émission éducative sur la 5, où j'étais dialoguiste. Et puis, j'ai écrit un roman policier que j'ai eu la chance qu'il soit publié tout de suite par Gallimard, en série noire.
Une arrière-saison en enfer.
Une arrière-saison en enfer, qui est malheureusement épuisée pour le moment, mais... Et à partir de là...
C'est qu'elle a bien marché, alors, cette arrière-saison en enfer.
Elle a bien marché, je crois, oui, qu'elle a bien marché, oui. Ça parlait des années 70, un peu, donc il y avait pas mal de gens qui s'y sont retrouvés, peut-être, voilà.
Et ça se passait à Paris, également ?
Ça se passait à Paris, bien sûr, oui, bien sûr. Pratiquement tous mes romans se passent en majorité à Paris.
Et après, donc, ça c'était donc un polar, hein, en fait, hein, édité chez Gallimard.
Une série noire, oui.
Ouais, une série noire. Et ensuite, vous avez écrit L'Arme Blanche, édité chez Buchet-Chastel.
Voilà, et j'ai publié ça l'année dernière, L'Arme Blanche chez Buchet-Chastel. C'est un roman noir. Une partie se passe en Écosse et puis se termine à Paris, forcément.
On retrouve Paris.
On retrouve Paris, voilà. Et puis, je viens de publier aux éditions du Rocher un recueil de nouvelles auquel je suis très attaché, oui.
Alors voilà, justement, on en parle. Donc, c'est La sieste des hippocampes. Alors déjà, le titre est assez rigolo. C'est pas un titre ordinaire.
C'est le titre de la première des nouvelles.
Il y a beaucoup d'hippocampes dans la première
nouvelle. Oui, il y a beaucoup d'hippocampes. Parce que l'hippocampe, c'est à la fois un petit animal marin aux particularités uniques, hein, qui porte en gestation les œufs de la femelle, qui et surtout c'est un animal monogame, ce qui est quand même assez rare dans le
monde. Sa vie, il est monogame, ça c'est bien.
C'est plutôt rare, hein, dans le monde animal.
Tout à fait.
Oui. Et bon, ça c'est les particularités de l'animal, mais c'est aussi c'est une partie particulière du cerveau. Quand on coupe le cerveau en deux, il y a une partie qui apparaît et qui ressemble à un hippocampe. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Et c'est le centre d'enregistrement de la mémoire.
D'accord, donc c'est on va en parler dans un instant. Donc c'est effectivement le thème, on va dire, porteur de la première nouvelle, hein, de votre recueil. Donc justement, c'est votre premier recueil de nouvelles, hein, puisque vous avez écrit une série noire et un roman noir. Donc là, c'est un premier recueil de nouvelles. Vous vous êtes mis donc au style nouvelle.
Voilà, et c'est je suis particulièrement heureux de les avoir publiés parce que c'est extrêmement difficile en France de publier des nouvelles. Il y a une espèce de préjugé particulier défavorable des éditeurs qui pensent que il n'y a pas de lectorat pour les nouvelles, et mon manuscrit a été refusé par un certain nombre d'éditeurs qui considéraient que c'était très intéressant, mais que si on n'était pas connu, pas suffisamment connu, les nouvelles ne se vendraient pas. Ça fait que les éditeurs publie peu de nouvelles, du coup les libraires en ont pas et puis les lecteurs en ont pas, donc ça fait une espèce de cercle vicieux. Alors que
c'est dommage parce que la nouvelle, c'est justement, en plus j'imagine, comme une ville à Paris, comme une ville comme Paris où bon beaucoup de personnes prennent les moyens de locomotion assez longtemps et assez souvent au cours d'une journée. Justement, le principe de la nouvelle, c'est justement de pouvoir lire une histoire presque entière dans un moyen de locomotion, par exemple, et alors qu'un roman, c'est peut-être plus difficile.
C'est exactement ça, exactement. Enfin, en une demi-heure, on peut lire une nouvelle, on est dans une atmosphère, on est dans un monde particulier. Et les gens autour de moi, c'est très curieux. Je ne comprends pas parce que les gens autour de moi disent qu'ils adorent ce genre-là. C'est les éditeurs qui n'aiment pas, c'est très curieux. Donc j'ai eu la chance de participer à un concours organisé par l'Atelier Imaginaire, qui est une association qui organise depuis près de 30 ans des concours de nouvelles et de poésie. Et l'originalité de ce concours, c'est que c'est sous manuscrit et strictement anonyme. Du coup, il n'y a pas les pressions d'éditeurs, il n'y a pas les choses comme ça. Et j'ai eu la chance d'être lauréat de ce prix et du coup d'être publié aux éditions du Rocher. Voilà. Pour moi, c'est un plaisir multiplié parce que depuis tant que j'avais envie de les publier, ces nouvelles, voilà.
Donc, il a obtenu, en plus, ce recueil de nouvelles a obtenu le prix Prométhée de la nouvelle 2008. En plus, il a été, non seulement il a été édité, mais en plus, il a été primé.
Voilà, c'est ça.
Donc, voilà. Ce prix Prométhée, c'est important pour vous, hein ?
Ah ben, c'est important, c'est une reconnaissance, parce que c'est un jury de 20 écrivains internationaux, francophones, des gens qui ont publié depuis très longtemps. Et sur les 20 jurés, il y en a 18 qui ont voté pour moi. Alors j'étais vraiment, vraiment très très fier. Oui, c'est important. C'est important. En tout cas, c'est important, ces nouvelles-là, parce que j'y tenais particulièrement. Je pense que la nouvelle, c'est vraiment un genre particulier. C'est vraiment pas un roman court ou un chapitre d'un livre. C'est vraiment un genre particulier, c'est quelque chose...
L'histoire est vraiment très concentrée, très essentielle dans son contenu et c'est un
voilà,
peu ça.
C'est ça. Et puis c'est vraiment un genre avec des lois, avec des codes particuliers, c'est les codes d'une construction dramatique, c'est-à-dire qu'il y a unité d'action, unité de lieu, unité de temps. Ce qui prime dans la nouvelle, c'est l'atmosphère, il n'y a pas de digression, c'est la fulgurance, quoi. C'est dans l'urgence, c'est écrit dans l'urgence.
L'urgence, tout à fait. C'est de l'intense dans l'urgence. Et justement, les atmosphères, elles sont très bien. On va en parler là tout de suite. Donc, les ambiances, les atmosphères sont très bien écrites, très bien décrites. Et puis, les chutes, parce que la nouvelle, c'est ça aussi. C'est la chute de la nouvelle, la fin de l'histoire. Alors, vous, vos chutes, Gilles Verdet, elles sont vertigineuses.
Oui, on ne va pas les dévoiler, mais c'est vrai que j'aime bien l'espèce de rebondissement, une espèce de ricochet de la vie comme ça qui fait sans le savoir, on peut être manipulé par le destin ou par les situations ou par la vie, des choses comme ça. Et qu'à chaque fois, les personnages qui sont dans ces nouvelles-là sont d'une certaine façon manipulés, pas par des forces extérieures, mais par le destin, quoi. C'est ça, c'est le fatum, quoi.
La vie, en fait, c'est de la vie tout court.
Voilà, exactement.
Alors, la première nouvelle s'intitule, comme le titre du recueil, d'ailleurs, La sieste des hippocampes, justement. Alors, on fait connaissance avec Gilbert, qui tient une rubrique nécrologique d'un quotidien du soir, et qui est hypermnésique, alors, c'est-à-dire qu'il se rappelle de tout.
Voilà, il est hypermnésique, ce qui est une pathologie rare, mais qui existe. C'est-à-dire que, justement, son hippocampe ne fonctionne plus, et au lieu de faire le tri et de sélectionner les événements de la mémoire, il se souvient de tout, ce qui lui rend la vie impossible. Il se souvient de tout, tous les événements, de toutes les sensations, des odeurs, des bruits. Et il a le sentiment de rencontrer un jour, il consulte régulièrement un ami neurologue pour cette pathologie particulière.
Le professeur Memovitch.
Voilà, le professeur Memovitch. Et un jour, il a le sentiment de rencontrer dans le cabinet, dans la salle d'attente, une femme qu'il a connue, avec qui il a eu une liaison amoureuse 20 ans avant. Donc il va essayer de retrouver cette femme. Il se trouve que cette femme, si elle consulte, c'est parce qu'elle est amnésique. Donc c'est la rencontre d'un hypermnésique et d'un amnésique.
Voilà, c'est en fait les deux contraires.
Voilà, les deux contraires. Et qu'est-ce qui est plus terrible dans la vie, de se souvenir de tout et de se souvenir de rien? En tout cas, pour Gilbert, ça va être quelque chose de terrible parce que il a le sentiment que quelqu'un qui se souvient de rien a une liberté absolue puisqu'il est attaché à rien, à aucun souvenir. Et ça va lui être insupportable.
Et oui, donc ça c'est la première nouvelle avec donc on laisse découvrir aux auditeurs cette nouvelle, La sieste des hippocampes. Alors la seconde s'appelle Le grand palais d'hiver. Alors là ça c'est l'histoire de Igor et Alexis, ce sont deux SDF à Paris bien entendu. Et alors avec une insurrection du palais d'hiver par tous les sans-abri, par tous les sans-rien comme vous les appelez joliment d'ailleurs, de Paname, et lors d'un défilé haute couture assez privé, hein, assez guindé, privé. Et alors, donc là aussi, dans cette nouvelle, la chute est surprenante, voire dérangeante. Enfin, moi, elle m'a beaucoup touchée, quoi, cette chute de cette nouvelle, Le Grand Palais d'Hiver. Elle m'a beaucoup touchée parce que, bon, on se dit, mais c'est tout à fait possible.
Oui, c'est tout
horreur,
à fait possible.
C'est tout à fait possible.
Oui, absolument. Cette idée-là m'est venue en regardant, c'est à peu près à cette époque-là, quand les premiers grands froids au journal télévisé, ils ont signalé qu'ils ouvraient les métros, parce qu'il y avait une alerte de grand froid, ils ouvraient quelques stations de métro pour que les SDF puissent venir s'abriter. Et au milieu du journal, et à la fin du journal télévisé, dans la page culturelle, ils annonçaient un reportage sur un défilé de haute couture au Grand Palais. Et là, c'était un étalage de luxe, d'opulence, d'abondance, de richesse, de futile. Et je me suis dit, mais il y a un décalage énorme. Et je me suis dit, mais finalement, c'est ça, quoi, le Grand Palais. J'ai associé tout de suite le Grand Palais à la prise du Palais d'Hiver de 1917. Et les bolcheviks, c'est les SDF, c'est les nouveaux bolcheviks, quoi. C'est les bolcheviks de la misère, c'est les bolcheviks de la mouise, de la débine, quoi, voilà. C'est les naufragés, c'est les oubliés. Et je me suis dit, et voilà, ils vont prendre le Palais d'Hiver. Mais effectivement, il y a une chute, et puis... Et l'histoire ricane souvent, quoi.
Oui, voilà, vous avez vos histoires, elles sont puisées, bon, un peu dans la réalité, hein, puisque bon, bah, l'hypermnésie, ça existe, l'amnésie également, bon, bah, les SDF, malheureusement, encore hier, il y en a un qui est décédé, je ne sais, à Carcassonne, d'ailleurs, c'est pas très loin de chez nous, à Toulouse. C'est dans la réalité que vous puisez un peu vos histoires, là, enfin, tout du moins, ces nouvelles.
Bien sûr, et puis c'est vraiment dans une réalité concrète. Hein. Je ne sais pas comment c'est à Toulouse, mais à Paris, je veux dire, c'est la misère, elle n'est pas seulement à nos portes, elle est à nos portes cochères. Je veux dire, si on ne peut pas faire un pas sans voir des gens qui sont sur des cartons, qui dorment sur des cartons, qui dorment sur des grilles de métro, qui dorment dans des portes cochères. Il n'y a pas un immeuble où il n'y a pas des sans-abri. C'est vraiment quelque chose, on peut pas ne pas les pas voir. Et si on se promène la nuit dans les abribus, on les voit partout. Quoi. C'est quelque chose de terrible. Ouais.
D'ailleurs, c'est très bien décrit dans cette nouvelle. Hein. Je trouve que, je le vis pas, mais je veux dire, on sent que c'est vraiment très réel. Vous décrivez très bien la vie entre guillemets de Digor et Alexis. Donc justement, ces petits matins, où ils se réveillent, il fait froid, où ils ont mal dormi, enfin où c'est vraiment la difficulté vraiment de d'engranger tous ces petits matins pour essayer de tenir encore un matin de plus. C'est vraiment très très bien décrit dans cette nouvelle, je trouve.
Oui, c'est l'émotion qu'on ressent en tout cas. Hein. Je veux dire, on ne peut pas les voir.
Des gens comme vous qui ressentent justement encore une émotion face à ces personnes. Je trouve ça très bien. Alors la troisième nouvelle, parce que le temps nous rattrape malheureusement, s'appelle Roman de gare. Alors là, ça se passe à la gare de Lyon, hein, gare de Lyon à Paris. Et puis alors c'est quand la fiction, quand le roman noir dépasse la réalité, hein,
voilà,
parce que c'est l'histoire de Jacqueline, une dame pipi hein, de la gare de Lyon qui dévore des polars et qui va vivre finalement un scénario digne d'un de ses livres fétiches, même plus que digne. Ça dépasse carrément ce qu'elle a pu lire.
Voilà, en fait, c'est elle qui va s'inventer un roman policier. Voilà. Et c'était une façon de parler une façon décalée de parler de la création littéraire. C'est-à-dire qu'elle va s'inventer sa vie et puis elle va s'inventer une fiction. Et je trouvais ça intéressant dans la gare de Lyon, qui est la gare de Lyon. D'abord, c'est un monument magnifique. La tour de la gare de Lyon, c'est très très beau.
On en parle, tout à fait.
Qui a été construit en 1900 et c'est. Et c'est le départ vers le sud, quoi. La gare de Lyon, c'est le départ vers le soleil, vers le sud. Et cette femme qui est là voit les trains partir tous les jours, voit les gens qui viennent, et puis voit les séparations, les ruptures, les retrouvailles, les embrassades et les départs. Et elle vit dans ce monde-là, et elle se construit un monde elle se construit un roman, quoi. Et puis, comme elle est folle de romans noirs, elle se construit un roman noir, et puis d'un seul coup, elle va être le sorte de justicier qui va régler ses comptes. Voilà.
Voilà, oui, en fait, voilà, la gare, c'est un peu le centre de la vie, hein, d'une vie. Et puis elle s'ennuie un peu, hein, finalement, Jacqueline. Et donc, elle va, avec son imaginaire, son imagination, elle va être effectivement amenée à être au centre de quelque chose de beaucoup plus, de plus agréable, hein, de plus fou, quoi.
Absolument,
finalement.
Mais de façon dramatique quand même.
Ah oui, tout à fait. Oui, là aussi, la chute est... Là aussi, il ne faut pas oublier que la chute est également assez forte et assez dramatique, tout à fait. Et puis on arrive à la quatrième nouvelle, alors qui s'appelle Coma avec deux M, C-O-2-M-A. Alors Coma, c'est un papa qui suit un peu, qui voit grandir son fils, mais dans son sommeil en fait.
Voilà, Coma avec deux M, c'est un intervalle musical imperceptible à l'oreille entre le do dièse et le ré bémol. C'est vraiment quelque chose qu'on n'entend pas. C'est un intervalle minuscule. Et j'ai voulu faire le rapport avec le coma, où ce type qui a un accident de voiture dans les fins des années 70, un militant politique et engagé, dans les années 70, il a un accident de voiture et il tombe dans le coma pendant une vingtaine d'années. Et il ne perçoit de la vie et des événements de l'histoire, surtout de l'histoire des événements historiques, que par ce que lui raconte sa compagne.
Qui vient le voir tous les jours à l'hôpital.
Qui vient le voir régulièrement, tous les jours, et qui lui transmet, qui lui raconte les événements, la chute du mur, le gouvernement socialiste, et puis tous les événements politiques, petit à petit, il va sentir que cette femme s'éloigne, et petit à petit aussi, il va son fils qu'il n'a pas connu, et qui est né après son accident, il va le sentir, l'entendre. Il n'a de perception que par l'ouïe et l'odorat, et ces 20 ans de sa vie vont...
On arrive à la fin de l'émission, Gilles Verdet. On laisse à la limite, on laisse aux auditeurs le loisir de découvrir
sur le blanc, alors, oui.
Coma avec donc cette dernière nouvelle de ce recueil La sieste des hippocampes édité au Rocher de Gilles Verdet. Alors un projet, un roman peut-être prochainement.
Il y, Il y a un roman qui va sortir dans la série Suite Noire, dirigée par Jean-Bernard Fouy, qui s'appelle Du Rififi chez les Bonnes, qui est un roman noir. Voilà.
Vous reviendrez nous en parler à l'antenne de Radio Occitanie.
Avec plaisir.
En tout cas, merci beaucoup Gilles Verdet d'avoir participé à Page, et puis bonjour à Paname, de la part de Toulouse. Merci encore à vous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Rachel Korenblit, une auteure jeunesse qui viendra parler de deux de ses livres, Lily la bagarre et 18 baisers plus 1. On se retrouve jeudi prochain sur les ondes de Radio Occitanie. À Dissiats. Boop boop be doop.